France Inter.
Aujourd'hui, nouveauté et obsolescence, cinquième épisode de notre série Capitalisme, une histoire de la Terre, racontée par...
Jeanne Guillain, philosophe, spécialiste de l'histoire du consumérisme.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Le baron Hartmann, qui avait suivi le geste de Mouret, regardait ces dames par la porte restée grande ouverte et il les écoutait d'une oreille pendant que le jeune homme, enflammé du désir de le convaincre, se livrait davantage, lui expliquait le mécanisme du nouveau commerce des nouveautés. Ce commerce était basé maintenant sur le renouvellement continu et rapide du capital qu'il s'agissait de faire passer en marchandises le plus de fois possible dans la même année. Vous entendez, monsieur le baron, toute la mécanique est là, c'est bien simple, mais il fallait le trouver. Nous n'avons pas besoin d'un gros roulement de fonds. Notre effort unique est de nous débarrasser très vite de la marchandise achetée pour la remplacer par d'autres, ce qui fait rendre au capital autant de fois son intérêt. Alors avec sa verve provençale, en phrases chaudes qui évoquaient les images, il montra le nouveau commerce à l'œuvre. Ce fut d'abord la puissance décuplée de l'entassement, toutes les marchandises accumulées sur un point, se soutenant et se poussant, jamais de chômage, toujours l'article de la saison était là, et de comptoir en comptoir, la cliente se trouvait prise, achetait ici l'étoffe, plus loin le fil, ailleurs le manteau, s'habillait, puis tombait dans des rencontres imprévues, cédait aux besoins de l'inutile et du joli. Ensuite, il célébra la marque en chiffres connus, la grande révolution des nouveautés partait de cette trouvaille. Si l'ancien commerce, le petit commerce, agonisait, c'était qu'il ne pouvait soutenir la lutte des bas prix engagés par la marque. Maintenant, la concurrence avait lieu sous les yeux même du public, une promenade aux étalages établissait les prix, chaque magasin baissait, se contentait du plus léger bénéfice possible, aucune tricherie, pas de coup de fortune longtemps médité sur un tissu vendu le double de sa valeur, mais des opérations courantes, un temps pour cent régulier prélevé sur tous les articles, la fortune mise dans le bon fonctionnement d'une vente d'autant plus large qu'elle se faisait au grand jour. N'était-ce pas une création étonnante? Elle bouleversait le marché, elle transformait Paris, car elle était faite de la chair et du sang de la femme. Émile Zola, Au bonheur des dames, 1883. Bonjour Jeanne Guillain.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions de La Découverte le désir de nouveauté, sous-titré « L'obsolescence au cœur du capitalisme entre le 15e et le 21e siècle ». Cet extrait d'Au bonheur des dames, avec ce grand magasin imaginé par Zola au 19e siècle, inspiré du bon marché à Paris, c'est donc l'idée d'un nouveau commerce, comme je le disais dans le texte, comme Zola l'écrivait plutôt, basé sur les nouveautés afin de susciter un désir sans fin. C'est vraiment au cours du discours marchand que vous décrivez justement dans votre ouvrage.
Oui, dans ce passage donc, qui est extrait d'un roman, c'est de la fiction, mais inspiré de la réalité, comme le faisait Zola. Et dans ce passage, il y a vraiment tout ce qui, effectivement, au XIXe siècle, a inspiré la multiplication des magasins dans les grandes villes françaises. Donc le principe d'accumuler les marchandises, une sur-offre, beaucoup de choses. Le principe de rotation rapide des stocks, la saisonnalité de l'offre, la concentration d'une offre dans un seul magasin, les bas prix, le merchandising, c'est-à-dire le fait de faire plusieurs comptoirs jolis. Et puis, le ciblage des femmes, le sexisme, l'idée que oui, on met beaucoup de nouveautés tout le temps, mais c'est parce que c'est les femmes qui veulent ça. Alors qu'en fait, il s'agit d'une stratégie, en l'occurrence une stratégie commerciale, puisque qui parle dans ce passage? Eh bien, c'est le gestionnaire du bon marché.
Votre propre livre, Jeanne Guillain, est aussi arrangé au rayon des nouveautés chez les libraires, avec ce slogan, c'est nouveau, ça vient de sortir, qu'on pourrait presque employer également. C'est une accroche marketing qui pourrait susciter d'ailleurs plus de désir chez les lectoristes, non?
Alors, c'est intéressant, oui, il y a une suroffre dans le domaine du livre, tout à fait. Il y a d'ailleurs un mouvement social parmi les libraires en ce moment qui s'appelle la trêve de la nouveauté, parce qu'ils se rendent compte qu'à force, il y a 70 000 nouveaux titres par an sur le marché du livre en France, c'est beaucoup trop, ils n'arrivent pas à suivre, les lecteurs et lectrices non plus. Donc il y a des mouvements, la trêve des nouveautés, la grève des nouveautés. Et effectivement, quand vous rentrez sur ce marché-là, comme c'est mon cas avec un bouquin, eh bien, vous vous retrouvez face à des comportements complètement absurdes. Par exemple, mon livre, aussitôt sorti, a été mis en photo sur un site qui s'appelle Lisez, point d'exclamation, et il y avait un petit macaron avec écrit « Nouveauté » sur le bouquin.
Alors que vous faites une critique précédente de la nouveauté dans votre ouvrage.
Tout à fait, et de ce genre de pratique marketing, donc on leur a écrit pour leur dire de l'enlever, mais ils ont répondu quoi? On ne peut pas, c'est généré automatiquement.
Ouais. C'est ça. Un exemple parmi tant d'autres, lors du dernier épisode de notre série sur le capitalisme, nous évoquions la fabrique du consommateur avec la sociologue Dominique Méda. Et donc aujourd'hui, avec vous, Jeanne Guin, on va explorer cette notion de nouveauté. La nouveauté, donc, on l'a bien compris, qui apparaît vraiment comme une stratégie commerciale qui est souvent perçue d'abord comme une qualité marchande, hein.
Oui, c'est perçu d'abord comme une propriété des choses, c'est-à-dire un moment historique. Voilà, la chose émerge à un moment, à partir du moment où elle est mise sur le marché, elle arrive dans le monde et ce serait le début de sa vie, comme s'il n'y avait rien avant et comme s'il n'y aurait rien après. Donc il y a une espèce de construction historique autour de la commercialisation des produits qui tient non pas à des propriétés physiques de l'objet, c'est pas une propriété des choses, la nouveauté, mais plutôt à ce qu'appelle en tout cas Michel Calon et ses co-auteurs les qualités marchandes, c'est-à-dire un ensemble de traits définitoires, de caractéristiques qui vont être montées en épingle par tout un secteur de la communication. Donc ça peut être la beauté, ça peut être la jeunesse, ça peut être le caractère écologique, ça peut être plein de choses, hein, ça ouais. dépend des opportunités, ils se saisissent un peu de toutes, mais beaucoup, très souvent, c'est la nouveauté.
Tout ça en suscitant donc la curiosité et l'urgence d'achat. Et alors pour le coup, cette stratégie commerciale de la nouveauté, elle n'est pas du tout nouvelle, puisque vous explorez précisément cette thématique à travers une histoire qui remonte au 15e siècle, en tout cas dans votre ouvrage. Cette histoire-là, elle traverse le capitalisme européen ?
Oui, bien sûr. Moi, je commence au 15e siècle avec l'explosion de ce qu'on appelle en Europe le commerce au loin, c'est-à-dire l'importation massive de produits issus des autres continents, et notamment des terres qui sont à l'époque conquises, donc des Amériques, mais aussi de l'Asie, mais aussi de l'Afrique, plus tard de l'Australie, etc. Donc cette mainmise sur beaucoup de terres et beaucoup de richesses, cette conquête et cette prédation sur les ressources, permettent aux Européens d'importer beaucoup de produits qui sont soit inconnus en Europe, soit vraiment réservé à une élite richissime. Et donc ces importations massives vont se faire sous l'étiquette commerciale de l'étrange, de l'ailleurs, de l'exotique, de la découverte, ce qui est pour moi une des figures de la nouveauté, hein. Il n'y a pas toujours le mot nouveau, mais en tout cas c'est le même geste qu'on retrouve, cette manière de créer de la valeur pour des produits qui ne sont pas connus, pas demandés, autour de cette idée qu'ils vont apporter une expérience incroyable, inédite, et qu'il faut à tout prix s'en saisir le plus vite possible.
Donc ce sont les colons qui ont construit finalement ce désir de nouveauté, on pourrait presque résumer les choses comme ça ?
En tout cas, les grands marchands négociants, qui s'appelaient des négociants aventuriers, mais qui étaient des colons, et qui cherchaient avant tout à créer des marchés pour ces produits qui faisaient leur fortune, hein.
Extrait pour en parler de 1492, Ridley Scott.
Par la grâce de Dieu et de votre majesté bienfaitrice, un nouveau continent vient d'être découvert et revendiqué au nom de la couronne d'Espagne, en l'an 1492. La voie la plus sûre vers le nouveau continent est désormais clairement déterminée. L'Espagne, par la grâce de votre majesté, a maintenant confirmé aux yeux de toute l'humanité l'existence d'un nouveau monde.
Voilà, cette notion de nouveau monde, de nouvelle terre, elle est centrale dans cette période de l'histoire. On explore pour trouver justement des territoires inconnus, hein, Jeanne Guin.
Oui, tous ces colons, marchands, aventuriers prétendent découvrir le monde, prétendent que c'est alors qu'ils arrivent sur des terres qui sont habitées, qui sont mises en valeur, qui sont sur lesquelles il y a des humains, des techniques, des marchés, mais prétendent les découvrir, prétendent avoir éclairé une partie du monde qui était inconnue, et donc utilisent beaucoup effectivement le terme de découverte et le terme de nouveauté, rebaptisent des contrées qui portaient déjà des noms puisqu'elles étaient déjà habitées, rebaptisent des produits, prétendent avoir découvert des ressources que personne ne connaissait ou qui étaient mal gérées, hein, c'est le discours colonial type, hein. Il y a des ressources ailleurs, mais elles sont mal gérées par les populations locales, et seuls ces colons seraient censés en connaître la vraie valeur. Et c'est ce discours-là qui sert effectivement en métropole à créer des marchés pour des produits très divers. Ça peut être de l'alimentation avec tout ce qui est sucre, café, thé, chocolat, etc. Ça peut être des produits de mode et d'apparat avec tous les tissus peints venus de l'Inde, la porcelaine, le mobilier en acajou, l'indigo, etc.
Ouais, tout ça évidemment venant de ces pays lointains, donc avec cette notion d'exotisme dont vous parliez. Vous rappelez aussi que Christophe Colomb a pu financer ses voyages grâce à un discours fait de promesses à la fois religieuses, belliqueuses et marchandes.
Oui, bien sûr, c'est très documenté que d'abord Christophe Colomb promet aux souverains ibériques de rapporter de l'or, des épices et des produits qui permettraient de rapporter beaucoup d'argent. Pourquoi ? Pour continuer à financer les guerres religieuses des souverains.
Est-ce que cette soif d'exotisme avec donc l'importation de produits, vous le disiez, comme le tabac, le sucre, le chocolat ou le café, ça s'est fait sans problème justement dans les pays européens où arrivaient ces produits ? Vous dites qu'il y a eu débat quand même au sein de la société.
Alors, sans problème, c'était soutenu par les États. Donc, il n'y avait pas de... Si ce n'est la concurrence entre États, il n'y avait pas de limite à cette prédation des ressources. Par contre, ce que je documente, c'est le fait que la consommation en Europe, la consommation de ce qu'on appelait à l'époque le luxe, puisqu'on ne parlait pas de consumérisme, de surconsommation, on disait plutôt le luxe, a fait débat, oui, effectivement, assez tôt, des débats de toutes sortes, hein, des débats économiques, des débats moraux... des débats humanitaires, etc. Et effectivement, moi, je me suis concentrée sur des débats qui portent sur le rôle économique de la consommation. Est-ce que renouveler régulièrement, gaspiller, c'est source de prospérité ? Et très tôt, on trouve ces discours-là qui prétendent que plus on renouvelle, plus on rachète, plus on change, plus on crée des effets de mode, eh bien, plus l'économie est censée se porter mieux.
Le marché du sucre qui a été responsable de violences et de bouleversements à la fois démographiques et écologiques. Vous citez l'île de la Barbade, qui aurait été déforestée en l'espace de 20 ans pour y produire le sucre. Sucre.
Oui, l'histoire du sucre, là aussi, est très documentée. C'est un produit pour lequel des populations ont été décimées, réduites en esclavage. Des forêts, la forêt atlantique du Brésil a disparu, des îles entières ont été rasées. Là aussi, c'est très documenté. Et moi, je m'intéresse au fait qu'en métropole, ces violences-là n'étaient évidemment pas ce qui était mis en avant, même si elles étaient connues. Mais on allait beaucoup plus mettre l'accent sur le caractère élégant, cultivé, exotique du sucre. On a, par exemple, des aristocrates ou des grands bourgeois du milieu négociant qui se font peindre, c'est-à-dire ils font faire leur portrait, ce qui est très cher à l'époque. Mmh. Ils se font peindre en train de consommer du café et du sucre, en train de se faire servir ces boissons par des esclaves vêtus de robes indiennes, etc. Donc c'est dire à quel point ces produits de mode, vendu sous le couvert de l'exotisme et les figures de la nouveauté, étaient considérées comme valorisantes socialement.
Une autre des figures de la nouveauté particulièrement utilisée pour valoriser des produits, c'est l'innovation. On va en parler avec vous dans un instant. Jeanne Guin, vous êtes notre invitée cet après-midi dans la Terre au Carré, et puis vous répondrez aux messages et aux questions de nos auditeurs et auditrices qui arrivent sur franceinter.fr, sur le site de l'émission.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Capitalisme, une histoire de la Terre, cinquième épisode de notre série avec vous, Jeanne Guin, aujourd'hui, autour de votre ouvrage Le désir de nouveauté, aux éditions de La Découverte. On était donc en train d'explorer finalement les germes de cet objet, de cet outil marketing dès la colonisation au 15e siècle. Et puis là, on va cheminer vers l'industrialisation pour évoquer évidemment une autre valeur importante pour parler des produits, c'est l'innovation. Qu'est-ce que ce mot justement évoque aux premières heures de l'industrialisation en Europe, l'innovation ?
Alors, innovation, c'est une des figures de la nouveauté, une des manières de refaire ce geste, de vanter des produits pour leur caractère récent. On le retrouve aujourd'hui plus pour parler de secteurs qui représentent ce qu'il y a de plus récent dans les techniques, donc par exemple aujourd'hui l'informatique. Ouais. Mais au 18e, 19e siècle en Europe, ça va être plutôt dans le cas de la mécanisation des outils de production, donc l'installation de machines à vapeur dans les usines, dans les mines, dans les fabrique. On ne parle pas forcément d'innovation en ces termes-là à l'époque. Moi, je mélange plusieurs figures de la nouveauté pour ce chapitre-là. On parle d'amélioration, on parle de progrès beaucoup, on parle de développement au 19e siècle aussi déjà. Et plutôt au 20e, on commencera vraiment à répéter innovation jusqu'à en avoir plus que ce mot à la bouche comme aujourd'hui.
C'est ça, mais au moment de l'industrialisation, avec donc ces machines qui entrent effectivement dans les ateliers de production, dans les manufactures, il y a aussi toute une critique de ces machines accusées d'être des tueuses de bras et de causer du chômage quand même, hein.
Oui, donc tueuse de bras, c'est une expression de Françoise Arrige que vous avez reçue, je crois.
Absolument, deuxième épisode de la série.
Voilà, donc qui a écrit un livre de plusieurs livres de référence sur ces mouvements de contestation de la mécanisation des usines et des fabriques. Évidemment qu'on est dans un contexte de conflit, et ça c'est très important de le dire. Pourquoi il y a autant de discours qui mettent en avant la nouveauté et qui essayent de valoriser la nouveauté des choses? Parce qu'il y a de la critique. Plus il y a de critiques, plus il y a de discours qui viennent répondre en disant « mais l'innovation, c'est le progrès, c'est l'avenir, c'est le confort et le bien-être pour tous ». Plus il y a de résistance, plus on va créer ces discours de réponse. Et il se trouve qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a énormément de mouvements de résistance qui sont très déterminés. Il y a des abandons de postes, des grèves, des destructions des machines, des attaques sur leurs propriétaires et des situations qui sont vraiment parfois insurrectionnelles. Donc, les ouvriers, ouvrières et artisans, artisanes se considèrent comme menacés par la transformation des outils de production, et ils le sont de fait, puisque leur métier tel qu'il était pratiqué risque de disparaître ou d'être beaucoup moins bien payé une fois que les outils de production sont transformés.
Et Jeanne Guin, c'est dans ce contexte de débat concernant la mécanisation justement que l'obsolescence a été préconisée, théorisée. C'est dans ce contexte-là.
Alors oui, on trouve dans ce contexte de débat des textes qui expliquent que il faut connaître la durée de vie des machines qu'on installe dans sa fabrique pour pouvoir anticiper le moment de leur renouvellement. Pourquoi ? Parce que dans un contexte de concurrence industrielle, c'est-à-dire qui va produire le plus vite et le moins cher, eh bien il faut être toujours capable de en quelque sorte d'anticiper le moment où le concurrent va remplacer ses machines et donc obtenir un avantage concurrentiel.
Donc c'est le moteur de l'industrie, quoi. C'est vraiment le nerf de la guerre.
C'est considéré comme vraiment un outil de concurrence puissant. Et il va donner lieu au développement de toute une littérature ingénieriale, managériale. On n'utilise pas encore le mot à l'époque, mais c'est ça. Il s'agit vraiment de consigner soigneusement les performances des machines pour se dire à quel moment est-ce qu'il va devenir opportun de passer à une autre machine pour continuer à relancer la croissance de l'industrie. Et ça, c'est une stratégie industrielle qui perdure jusqu'à nos jours.
Renouvellement des machines et des objets. On va écouter ensemble un extrait d'un documentaire d'Arte en 2010 sur les ampoules.
Le Noël 1924 fut très spécial. Dans une arrière-salle de Genève, plusieurs hommes en costume rayé se sont réunis pour concevoir un plan secret. Leur but était de contrôler la production des ampoules incandescentes dans tous les pays et de se partager le gâteau du marché mondial. Pour ces compagnies, c'était mieux si les consommateurs achetaient régulièrement des ampoules. Donc, ils ont pensé qu'il fallait limiter la durée de vie des ampoules à 1000 heures.
Jeanne Guin, un bel exemple d'obsolescence programmée, cette affaire d'ampoule. Alors qu'on sait même qu'il y a une ampoule qui fonctionne toujours depuis un siècle, je crois qu'il est en Californie, à San Francisco, dans une caserne de pompiers. Et là, on voit ce cartel qui se regroupe.
Oui, donc on a écouté, je pense, un extrait du documentaire « Prêt à jeter » de Cosima Danno-Rizzer, où elle documente effectivement ce cas d'une entente secrète, d'un cartel secret entre entreprises fabricantes d'ampoules pour limiter la durée de vie des ampoules à 1000 heures, à une époque où elles pouvaient durer beaucoup plus de temps, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas très favorable aux affaires que de les laisser durer très longtemps. Je précise que pour moi, ce n'est pas un exemple d'obsolescence. Certes, c'est un exemple d'obsolescence programmée, mais je ne pense pas qu'il faille penser tous les cas d'obsolescence programmée sur ce modèle-là. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une entente secrète. Alors oui, c'est une entente secrète pour produire de l'obsolescence. Mais l'obsolescence, elle est aussi faite au grand jour, tous les jours, par des gens qui travaillent. Et on a souvent l'impression que l'obsolescence programmée est quelque chose de caché, une arnaque secrète. Ce qui a d'ailleurs tendance à faire que les critiques de l'obsolescence programmée sont taxées de complotisme. Ouais. Et donc forcément, si on ressort toujours cet exemple du seul cas où effectivement l'entente a été secrète, malheureusement, on risque que de perpétuer cette image et donc de limiter à l'arbre qui cache la forêt.
Parlons du philosophe Günther Anders, qui publie en 1956 « L'obsolescence de l'homme », un texte dans lequel il s'alarme de l'idolâtrie pour le progrès technologique. Déjà donc à l'époque, Jeanne Guin, il voyait que la croyance dans un salut pour le progrès technologique était complètement vaine. C'est ce qu'il nous dit.
Oui, Günther Anders, c'est donc un philosophe allemand qui a été exilé du nazisme et qui a passé du temps aux États-Unis, donc à cette période d'après-guerre jusqu'au début des années 50. Et à cette période, il est donc témoin puisqu'il a aussi travaillé en usine, il a été journaliste, il a été ouvrier, et il est donc témoin du développement du productivisme, de toujours ces nouvelles machines, hein, cette obsolescence dans le monde de la production, mais aussi du consumérisme. Et donc, il est témoin de ce que Ivan Illich appelle le monopole radical de certains objets, c'est-à-dire ce moment où un objet devient totalement incontournable et on est obligé d'y avoir recours. À l'époque, c'est la voiture. Anders raconte, par exemple, qu'il va se promener à pied et qu'il est arrêté par la police parce que c'est suspect de se promener à pied dans certaines artères réservées aux voitures. Donc Anders est témoin de ce moment où le monde se remplit d'objets, de produits plus précisément, de marchandises, et il devient de plus en plus difficile d'y échapper.
Sauf que là, il ne parle pas d'objets, il parle de l'obsolescence de l'homme, de l'humain.
Alors, l'obsolescence de l'humain, c'est une expression qui signifie qu'on se sent toujours en décalage, on ressent un fort décalage entre nos capacités physiques en tant que corps humain et nos outils techniques en tant qu'objets extérieurs. Mmh. Et il raconte, par exemple, qu'il est dans un musée où il y a exposé des hélices et des objets industriels, et il voit que beaucoup de gens gardent les mains dans le dos, en regardant ces objets dans une attitude de profond respect, de déférence envers la machine, comme si leurs mains leur semblaient désuètes, dysfonctionnelles, appauvries face à ces objets parfaits. Donc il y a un sentiment dont il témoigne d'une sorte d'imperfection humaine qui serait dépassée par ses propres outils.
Les appareils, écrit-il, de transmission et les contenus aliènent la singularité de chacun dans un mouvement qui nous rend interchangeables et donc obsolète. Hein. Günther Anders, donc, l'obsolescence de l'homme, livre majeur, hein, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à l'écologie, publié donc en 1956, Jeanne Guin. Le numérique, vous le disiez, c'est probablement, en tout cas, l'un des domaines où l'obsolescence est la plus forte. On va écouter un extrait d'un documentaire, enfin plutôt d'une intervention d'Emmanuel Macron. C'était autour de la 5G, on va parler d'innovation également, et c'était le 14 septembre 2020.
Évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des lumières. C'est le pays de l'innovation. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Voilà, Jeanne Guin, donc Emmanuel Macron, le 14 septembre 2020, on va y aller, l'innovation, parce que c'est un tournant incontournable, tout simplement, la 5G, on va la prendre.
Oui, bah, ce qu'on voit dans cet extrait, c'est qu'il n'y a absolument pas d'argument. Le mot « innovation » est devenu tellement chargé de valeur en lui-même qu'il permet au président de la République de se dispenser de tout argumentaire. On va adopter la 5G parce que c'est l'innovation. Ce n'est pas un argument, c'est juste un mot attrape-tout. Mais ça marche, puisqu'il est applaudi.
La mode, c'est un autre secteur hein, que vous explorez, où la nouveauté est au cœur de la machine. Vous y consacrez un chapitre pour évoquer la production permanente. C'est aussi ça, l'industrie de la mode aujourd'hui partout dans le monde.
Oui, la mode au sens du secteur du vêtement est tout à fait représentative des logiques d'obsolescence. D'abord parce que ça a été un secteur qui s'est très tôt approprié tous ces produits exotiques dont on parlait dans un premier temps, pour en faire des biens de luxe et de distinction permanente. Et puis, c'est aussi un domaine dans lequel les innovations dont on vient de parler de production ont été aussi très tôt accaparées pour produire plus, pour produire beaucoup en masse et mettre énormément sur le marché pour créer ce qu'on appelle une économie de l'offre et non de la demande. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on passe d'un modèle dans lequel un ou une cliente venait chez le tailleur commander un vêtement, s'il avait les moyens, bien sûr. Elle prenait ses mesures, elle disait ce qu'elle voulait, etc. Et on lui proposait, en fonction de sa demande, une tenue. Au 19e siècle, avec l'essor du prêt-à-porter et de la haute couture, pour le cas de la France, on rentre dans ce qu'on appelle une économie de l'offre, c'est-à-dire on produit des modèles tout faits. Donc, le prêt-à-porter, la confection pour les classes populaires et la haute couture version nouvelle pour les classes supérieures. Et on produit des choses déjà faites et les clients, les clientes sont censés adhérer à ce qu'on met sur le marché. Tout ça, évidemment, s'appuie sur deux système très important, le système de distribution. On a parlé tout à l'heure on a cité Émile Zola, donc qui met en scène les grands magasins où il y a tous ces principes de suroffre, d'accumulation et de rotation permanente des stocks et d'événementialité et de saisonnalité pour créer une impression permanente de renouvellement d'un côté, et ça s'appuie aussi sur un secteur des médias qui en régulièrement publiant des images nouvelles de différentes tenues, donne là aussi l'impression que le temps avance, qu'il y a un ordre régulier de nouveautés.
Les deux s'alimentent en permanence. Hein. Il y a les médias et l'industrie de la mode qui se nourrissent. En fait,
oui, parce qu'en fait, un média est daté. Un média se présente comme, toujours comme d'actualité, comme nouveau, les news. Ouais. Et donc, faire des médias de mode, c'est dater littéralement les produits. Dire ce qui est nouveau, dire ce qui est ancien, dire ce qui est de cette semaine, ce qui est de la semaine dernière.
Et aujourd'hui, évidemment, l'ultra fast fashion qui met en ligne des nouveautés à la vitesse de la lumière, tout cela au détriment des stylistes et des ouvriers. On va parler des produits jetables qui ont joué aussi un rôle important dans la valorisation de la nouveauté, et l'accumulation et l'acculturation, surtout au consumérisme. Jeanne Guin, Le désir de nouveauté, c'est votre nouvel ouvrage aux éditions de La Découverte.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
Mais je t'avais dit qu'il fallait prendre une marque connue. Une marque qui fait beaucoup de publicité ne peut pas tromper sa clientèle. Une seule fois dans ma vie, j'aimerais avoir un appareil qui tombe en panne le jour où j'en deviens enfin propriétaire. C'est la course contre les marchands de ferraille. Ils calculent leurs coûts. Hein. Ils calculent leurs coûts, c'est synchronisé ça.
Mort d'un commis voyageur, Arthur Miller, au théâtre par la compagnie La Chimère en 2011 sur une mise en scène de Laurent Barbier. Jeanne Guin avec ce livre Le désir de nouveauté aux éditions de La Découverte. Est-ce qu'on parle de la même chose en évoquant le neuf et le nouveau ?
Alors, pour moi, le neuf est aussi une des figures de la nouveauté, au sens où il sert aussi à produire de l'obsolescence, à inciter au renouvellement constant de ses possessions, puisque le neuf est aussi une valeur très très forte. C'est-à-dire qu'il y a énormément de produits dont on considère qu'ils ont plus de valeur neuf que d'occasion. Et ça vaut bon, pour plein d'objets du quotidien, et il y a certains même qu'on refuse d'utiliser s'ils ne sont pas neufs, et c'est pour ça que ce chapitre consacré au neuf est consacré aussi aux produits jetables.
Ces produits jetables, puisque vous les étudiez justement, vous l'aviez déjà fait dans un ouvrage précédent, ont joué un rôle très important dans la valorisation de la nouveauté et l'acculturation au consumérisme.
Oui. Les produits jetables, quand ils sont arrivés sur des marchés où ils étaient chers, où ils n'étaient pas spécialement innovants, hein, puisque c'était des produits de substitution, à part pour les conserves, et encore la conserve, c'était pas forcément dans des emballages jetables, à part pour les conserves ou les allumettes qui étaient innovants, vous avez plein de produits qui étaient en fait des imitations de produits durables, mais jetables, par exemple, les cols et manchettes en papier, les serviettes hygiéniques, etc. Ou les mouchoirs en papier, et était perçu comme cher et tout à fait substituable à des produits qui ne coûtaient plus rien une fois achetés. Et donc, il a fallu produire tout un discours, là aussi, une communication pour valoriser ces produits. Et sur cette communication, très souvent, elle était basée sur le discrédit de ce qui est réutilisable et ancien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu étudier pour montrer à quel point le désir de nouveauté, ça implique toujours le dégoût de l'ancien. Et ce dégoût, il est socialement construit comme le désir de nouveauté. Et c'est toujours un peu le revers de la médaille. Dans toutes ces publicités pour des produits jetables, vous avez toujours l'idée que les produits réutilisables, c'est des produits de vieux, c'est des produits dégoûtants, sales, dangereux pour la santé, qui appartiennent à un autre âge, un âge d'ignorance, un âge de sous-développement, un âge de pauvreté, de misère, dans ces discours qui sont très agressifs.
Ça passe encore ce genre de discours aujourd'hui, à l'heure de la crise écologique ? Parce qu'effectivement, à une époque, c'était vraiment un argument marketing, hein, de vanter le jetable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut le faire aussi ouvertement ou pas ?
Si l'hygiénisme publicitaire existe toujours et se nourrit de plein de peurs sociales variées. La peur sociale la plus récente qui a nourri ce discours-là, c'est la pandémie.
Ouais.
J'ai fait des enquêtes sur ce qu'on a appelé le marketing épidémique pour la revue Terrestre. On retrouve toujours cette idée que si vous réutilisez un gobelet, vous êtes en danger et qu'il faut remettre des sacs en plastique dans les magasins parce que sinon, ça va véhiculer des germes. Ce sont les mêmes discours depuis très longtemps et ils se nourrissent soit de discrimination sociale, hein, c'est un discours agressif envers les pauvres, agressif envers les vieux, il y a de l'agisme, etc. Ils peuvent se nourrir aussi d'une actualité comme la crise sanitaire.
J'apprends, grâce à votre livre, que le plus ancien quasiment produit jetable, ce sont des mouchoirs japonais, c'est ça, du 9e siècle ?
Oui, alors au Japon, les mouchoirs en papier jetables existent depuis le 9e siècle. Après, ils n'ont pas été à ce moment-là produits industriellement,
mais ils l'ont déjà été
quand Kleenex a été créé beaucoup plus tard. Oui, ils existaient déjà. Et c'est des produits de classe supérieure. Le fait de posséder des choses qu'on peut se permettre de jeter et de racheter était vraiment un geste distinctif, et donc c'était réservé aux élites.
Alors que c'est plutôt le contraire aujourd'hui autour des produits jetables. C'est-à-dire que c'est plutôt des produits qui sont vendus comme pas chers, hein.
Alors là, il y a une énorme ambiguïté autour de cet argument marketing. Hein. Mmh. Très souvent, les produits jetables sont vantés comme pratiques, hygiéniques et pas chers. En réalité, encore une fois, quand ils sont apparus sur le marché, ils étaient chers. Pourquoi ? Parce qu'il faut sans cesse les racheter. Donc le coût à long terme est invisibilisé. Et d'ailleurs, certaines publicités l'assument totalement. Vous avez des publicités pour lancer ces produits jetables qui les ont présentés comme des accessoires des classes supérieures, ce qu'ils étaient. Je prends l'exemple des serviettes hygiéniques que je connais bien parce que j'ai travaillé sur les produits menstruels. Eh bien, vous avez dans les publicités pour Kotex, qui est la marque qui a vraiment créé un marché de masse autour des serviettes, vous avez des femmes en manteau de fourrure qui descendent des marches dans des balles, qui prennent des carrosses, qui jouent au golf, équitation, patins à glace, aviation, Charleston, donc ils sont des loisirs de classe très riche à cette époque, c'est-à-dire les années 1920 aux États-Unis.
Jeanne Guin, l'emballage, ça joue un rôle majeur aussi dans les produits jetables, c'est un autre aspect que vous abordez dans votre ouvrage.
Oui, je m'intéresse à l'emballage qui est peut-être qui est le produit jetable le plus présent dans nos déchets ménagers et qui est un produit jetable qui accompagne déjà beaucoup d'autres produits jetables hein, qui doivent être eux-mêmes intacts avant d'être utilisés qu'une seule fois et puis qui accompagnent une foule d'autres produits et autour duquel se construit cette expérience du neuf. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est le neuf en fait pourquoi est-ce que deux objets apparemment similaires perdent tant de valeur si l'un est neuf et l'autre d'occasion? D'où ça vient qu'on a l'impression que l'objet neuf est de meilleure facture et de plus grande valeur, etc. Et donc je me suis intéressée à l'expérience du déballage comme une expérience sensible, agréable, valorisante et voilà, et ça passe par enquêter, prendre au sérieux des pratiques communes comme par exemple se filmer en train de déballer des produits, c'est quelque chose qui marche beaucoup sur internet, ce qu'on appelle le unboxing.
Absolument.
Donc c'est un exemple pour moi qui montre que l'expérience de déballer a acquis une valeur sociale très très forte au point qu'on veut la vivre sans cesse et sans cesse. Mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est de montrer que cette expérience elle joue aussi un rôle dans l'incitation au rachat. Pourquoi ? Parce que si déballer, accéder aux produits neufs, c'est le summum de ce qu'on puisse vivre dans ces expériences de consommation, c'est problématique parce que déballer, ça ne dure pas très longtemps en fait. Donc vous avez beau vous filmer et vous repasser la vidéo, cette expérience-là de plaisir ne va pas durer très longtemps. Donc ça incite à toujours revivre ce moment de déballage et donc aussi racheter.
Il y a un mot pour parler du désir de nouveauté, d'ailleurs on ne l'a pas encore cité, je crois, c'est la néophilie, c'est ça ?
Oui, alors c'est un mot, c'est un néologisme que je ne suis pas la première à proposer. Ça veut dire néos, filer, c'est désirer le nouveau, hein, littéralement en grec. Juste, moi, je lui donne un sens un peu particulier. Je ne dis pas que c'est le désir de nouveauté qui existe en chacun de nous. Je dis que c'est le désir de nouveauté en tant qu'il est produit et prétexté en nous par les acteurs du marché qui ont intérêt à le susciter.
Vous dites en conclusion de votre ouvrage, Jeanne Guin, que les discours marchands se retrouvent aussi dans les sphères militantes. Vous parlez de néophilie militante.
Oui, alors
ça arrive vraiment dans les dernières pages du livre. Hein.
C'est pas des discours marchands, c'est pour ça que je le garde pour la fin, parce que c'est pas un discours marchand, il s'agit pas de vendre des produits.
Mais c'est une critique quand même.
Ce que j'essaye de dire, c'est que l'idée qu'on peut valoriser quelque chose en disant que c'est nouveau est devenue tellement consensuelle qu'on la retrouve dans des sphères qui sont pas marchandes. Et on la retrouve en politique. Il y a des milliers de slogans, de noms de collectifs, de noms de partis qui emploient le mot « nouveau » ou « changement » ou « révolution » ou « futur ».
Génération, jeune.
Génération, jeunesse, etc. Donc, qui emploient donc ce vocabulaire de la néophilie pour valoriser, pour inciter les gens à porter attention à ce projet politique. Et je me questionne sur le sens que ça peut avoir d'un point de vue politique. La politique, c'est avant tout se rassembler. Si vous voulez dire que votre mouvement politique a de la valeur parce qu'il est fait que par des jeunes, ça n'a aucun sens en fait. Déjà, vous allez créer des ponts, hein, créer des fossés entre âge, etc., entre générations. Donc vous n'allez pas rassembler. Et puis surtout, la jeunesse, la mode, ça ne dure pas longtemps par définition.
Et donc vous écrivez néophilie hors de nos luttes.
Exactement.
Jeanne Guin, c'est un des mots de la fin quasiment de votre ouvrage. Juste en conclusion, puisque c'est le cinquième épisode de notre série, qu'est-ce que ça raconte de cette grande histoire du capitalisme, ce travail sur le désir de nouveauté ? S'il fallait résumer en un mot, c'est que tout ça est tout à fait construit, pensé.
Penser, c'est difficile de savoir si les acteurs ont toujours tout à fait conscience de ce qu'ils font. Ce qui est certain, c'est que le désir de nouveauté, pour moi, n'est pas inné. Ce n'est pas quelque chose qui serait présent dans notre cerveau ou dans notre cœur. D'ailleurs, je ne sais pas qui est ce nous, et je crois que personne n'a jamais observé, n'a trouvé dans notre cerveau le siège du désir de nouveauté. Ça, scientifiquement, ce n'est pas attesté. Par contre, ce que scientifiquement, on peut observer et documenter, c'est qu'il y a une longue histoire de la production de ce désir de nouveauté.
Allez, on passe aux questions, elles sont là pour vous. Maxime nous dit ceci sur le site de l'émission. Je ne supporte plus ces dirigeants d'entreprises qui justifient leur surproduction de nouveautés et de produits en disant qu'ils ne font que répondre aux besoins des consommateurs, des besoins qu'ils ont créés eux-mêmes. Encore une inversion de la culpabilité.
Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est bien ça. Il y a la néophilie, c'est pas le désir de nouveauté en nous, c'est le désir de nouveauté en tant qu'il est prétexté et suscité en nous par les personnes à qui cela profite. Et effectivement, nous qui est-ce, ça peut être toutes sortes de catégories de population, on remarque que très souvent les personnes désignées comme désirant particulièrement la nouveauté sont les femmes et les jeunes, ou les deux à la fois, les jeunes femmes. Donc il y a la construction sociale des gens passionnés de nouveauté. Et effectivement, c'est une double peine. On vous fait acheter, on exploite votre porte-monnaie et en même temps, on vous dit que c'est votre faute.
Et puis Victoria nous dit, pour les produits alimentaires et d'entretien, souvent l'innovation n'en est pas une. Les entreprises changent le packaging, mettent une ouverture plus facile et nous annoncent un nouveau produit. C'est simplement du marketing et c'est seulement l'illusion de la nouveauté. On terminera, Jeanne Guin, avec ce message. Merci d'être venue dans cette émission, 5e épisode de notre série Capitalisme, une histoire de la Terre, coécrite avec Lucie Sarfati. Et je renvoie donc sur votre ouvrage, Le désir de nouveauté. Votre nouveau livre est publié aux éditions de La Découverte. Merci d'être venu nous en parler.
Merci.